Les théories socio-biologiques supposent que les sociétés d'insectes sont fermées et que leurs membres défendent des individus génétiquement très proches d'eux. Pour évaluer la pertinence de cette hypothèse chez un termite européen du genre Reticulite hermès, des analyses génétiques et comportementales ont permis de préciser l'ouverture et la fermeture de ces sociétés. Ces termites vivent dans des zones climatiques océaniques tempérées dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne, sèches et semi-arides dans le sud et l'est de la péninsule ibérique, et subméditerranéennes humides en Italie. Autour des hauts plateaux ibériques et au pied des Pyrénées, les populations de termites vivent dans de petites forêts, séparées les unes des autres par de vastes zones arides. Ces sociétés sont petites, dispersées dans un sol impossible à forer par les ouvriers. Chaque colonie est composée d'un couple permanent de reproducteurs qui en est le fondateur et de leurs descendants formant trois castes. Celle des ouvriers, qui assure l'entretien du couvain, l'alimentation de toute la société, la construction des galeries et en partie la défense. Celle des soldats, qui luttent contre les prédateurs et les compétiteurs, et celle des futurs essaimants. La simple observation dans la nature ne nous renseigne ni sur la structure génétique de la société, ni sur son éventuelle ouverture ou fermeture. Seule la recherche du polymorphisme enzymatique, grâce à l'électrophorèse, permet de connaître la structure génétique de chaque société et ses distances génétiques vis-à-vis de ses voisines. Des broyats de termites sont déposés dans un gel. Les différents allèles des locus enzymatiques, parce que chargés électriquement, sont attirés par un des pôles avec plus ou moins de vitesse selon leur constitution physique derrière le front coloré en violet. Un colorant spécifique révèle ensuite leur présence. Des différences génétiques individuelles apparaissent ainsi puisqu'un locus sur deux est polymorphe. Le calcul des fréquences de chaque allèle permet de savoir s'il y a un ou plusieurs couples de reproducteurs dans la société, s'il y a consanguinité et des échanges génétiques entre colonies voisines. Dans les zones sèches, les fréquences alléliques des gènes enzymatiques des ouvriers sont en proportion mendélienne. Les sociétés sont génétiquement différentes les unes des autres dans une même population. Chaque colonie possède donc un couple de reproducteurs. Ces éléments laissent supposer que ces sociétés sont totalement fermées. Pour contrôler cette hypothèse, l'agressivité entre colonies a été mesurée. Des parties de colonies collectées dans la nature ont été testées aussitôt après leur prélèvement. La mise en présence dans une arène neutre de 40 ouvriers prélevés dans deux colonies permet de mesurer leur tolérance. Les taux d'agressivité ont été calculés en dénombrant les survivants, les amputés et les morts 12 heures après le début de l'expérience. Dans les zones sèches, confirmant l'analyse génétique, l'agressivité intersociétaire est forte toute l'année. Les sociétés sont donc fermées. Comment les termites se reconnaissent-ils? Comment peuvent-ils détecter les intrus dans leur colonie? Les termites, lorsqu'ils se rencontrent, effectuent une séquence comportementale pour échanger des signaux de reconnaissance. Ils possèdent en effet, à la surface de leur cuticule, des substances qui constituent une signature chimique. Les deux protagonistes se touchent d'abord les antennes. Leurs palpes buccaux entrent ensuite en contact. Ils amènent leurs antennes sur le labre de leur partenaire et lorsqu'ils se croisent, poursuivent l'exploration des pleurs. Tout au long de cette investigation très rapide, ralentie ici 10 fois, de face ou latéralement, les organes récepteurs, antennes et palpes buccaux, perçoivent les substances sécrétées par les cellules tégumentaires. Cette signature chimique que porte chaque individu est programmée génétiquement et dépend des colonies, des populations et des espèces. Dans les zones sèches, lorsque deux sociétés voisines entrent en contact, l'agression se déclenche. Le contact normal est rompu quand les récepteurs olfactifs perçoivent les mélanges de substances inconnues. Une attaque s'ensuit et très souvent, la dernière zone cuticulaire inventoriée est prise pour cible. Dans certains cas, c'est le contact antennaire qui détermine l'agression. L'antenne peut alors être sectionnée. Le contact, palpe contre palpe, déclenche parfois l'engagement et les termites se tranchent les pièces buccales, les maxilles et les mandibules. Quelquefois, le labre, lui aussi recouvert de substances chimiques, est pris pour cible et extirpé. En plein corps à corps, les pattes sont certaines fois arrachées. Lorsque les protagonistes se rencontrent latéralement, les palpes et les antennes affleurent les pleurs et les mandibules déchirent l'abdomen. les assauts se poursuivent très souvent jusqu'à la mort de l'intrus. L'analyse statistique des combats entre ouvriers indique que les substances chimiques sont répandues sur tout le corps d'une façon homogène et qu'il faut en moyenne entre 2 et 3 contacts avant que l'agression se déclenche. La nature des substances chimiques est en partie sous la dépendance du génome. Il s'agit des phéromones de contact. Les structures génétiques des populations déterminent donc la fermeture des sociétés. Assurée en grande partie par l'agressivité des ouvriers, la fermeture des sociétés est aussi l'œuvre des soldats grâce à leurs fortes mandibules et aux substances toxiques que leurs glandes frontales sécrètent. Dans les zones sèches, l'expansion des populations ainsi que les échanges génétiques ne peuvent s'effectuer que lorsque l'agressivité est abolie entre sexués ailés au cours de l'essaimage. Au printemps, les femelles, après leur vol nuptial et l'autotomie de leurs ailes, attirent les mâles à distance à l'aide des phéromones d'attraction sexuelle émises par la glande sternale, qui apparaît ici sous forme d'une barre blanche sur la partie ventrale de l'abdomen. Les mâles détectent de loin les femelles grâce à leurs antennes et les rejoignent en marchant sur le sol de la forêt. Les couples formés assurent l'expansion des populations en fondant au loin une nouvelle société. Ce moyen d'échange génétique explique l'hétérogénéité des populations, puisque les répartitions alléliques sont régies par les lois de Mendel. Bordé par l'océan Atlantique, le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne ont un climat océanique humide. La couverture végétale est importante. Les sociétés de termites sont présentes partout, couvrant chacune de vastes surfaces difficiles à délimiter. L'analyse du polymorphisme enzymatique de ces sociétés indique qu'elles possèdent souvent plusieurs couples de reproducteurs et peuvent être comparées à de petites populations. Les taux de consanguinité sont faibles, les populations sont génétiquement très homogènes et il y a peu de différences entre colonies voisines. L'expansion des populations est assurée de deux façons, par l'essaimage, comme dans les zones sèches, mais aussi par bouturage. Dans les zones humides, les ouvriers creusent en effet des galeries dans le sol meuble durant toute l'année pour envahir de nouvelles souches de bois mort, très nombreuses dans ces vastes forêts. Expérimentalement, on constate que les ouvriers de termites détectent les souches à distance et creusent des galeries pour les envahir. L'image est ici accélérée 3000 fois. Au cours de ces dispersions, les sociétés voisines peuvent arriver en contact. Une partie de société installée dans une nouvelle souche peut se séparer de sa colonie d'origine et dans ce cas, la reproduction est assurée par un ou plusieurs couples de sexués de remplacement qu'on appelle néoténiques. Ils résultent de la transformation d'ouvriers en reproducteurs. Cette caste a acquis la physiologie qui lui permet de se reproduire sans sortir de son habitat. On reconnaît ici un néoténique aux traces noires de sa capsule céphalique et à son gros abdomen. Puisqu'ils sont frères et sœurs, les néoténiques tendraient à renforcer la consanguinité. Les sociétés voisines deviendraient génétiquement très différentes. Or, l'analyse enzymatique révèle que dans les zones humides, les populations sont génétiquement homogènes et les sociétés sans consanguinité. L'absence d'agonisme intersociétaire montre en outre que ces colonies sont ouvertes en été. La rencontre entre ouvriers de sociétés différentes à l'occasion de la conquête de nouvelles souches durant le bouturage permet à des parties de colonies de fusionner. Des néoténiques se forment et à long terme, ce mode d'échange assure aux populations une grande homogénéité génétique. Le bassin méditerranéen possède aussi une vaste zone où les termites sont abondants, la péninsule italienne. Contrairement au sud, au centre et à l'est de l'Espagne, les néoténiques, comme dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne, assurent souvent la reproduction et les sociétés peuvent en posséder de nombreux couples. Les populations sont génétiquement homogènes, sans consanguinité, et l'agonisme intersociétaire est faible en été. Ces sociétés sont donc ouvertes. L'Italie est soumise à un climat subméditerranéen humide. Dans ce mélange de maquis et de forêts, les sociétés sont abondantes. Elles peuvent bouturer et fusionner facilement en construisant des galeries dans le sol. L'expansion des populations est, semble-t-il, assurée presque exclusivement par ce moyen. Ainsi, les sociétés des termites européens du genre Reticulitermes sont donc ouvertes ou fermées selon le type climatique de la zone occupée. Une double interaction semble intervenir. Le climat, puisqu'il régule les moyens d'expansion et la densité des colonies, et le génome, puisque l'existence de substances cuticulaires de contact différentes déclenche l'agression. Par l'agression intersociétaire, les ouvriers défendent leurs frères et sœurs dans les sociétés fermées des zones sèches. Par contre, dans les zones humides, les ouvriers peuvent accueillir, nourrir et défendre des individus non issus des mêmes parents. Ces deux comportements, ouverture et fermeture des sociétés, sont donc adaptés aux différents climats et évitent ainsi la consanguinité.